Lozère, 1835. L'hiver. Chapitre 1. Anatole était un rêveur. Quoi qu'il se fût passé la nuit précédente, la tempête qui avait sévi des heures durant en aurait probablement effacé la moindre trace. Dès le début de soirée, des bourrasques hurlantes avaient secoué les grands sapins comme de vulgaires plumeaux. Les branches avaient plié, rompu, faisant craquer leurs souffrances telles des os brisés dans l'indifférence générale. La glace pénétrait partout, sous les portes, dans les recoins des murets de pierre, au toit des clochers. On aurait dit qu'elle cherchait à débusquer et éradiquer toute vie. À un moment, même la nuit avait disparu, avalée par le blizzard. Puis, au fait de l'obscurité, la neige avait débuté son action de fossoyeur. Elle était tombée dru, de tous côtés, pour enterrer la surface des choses sous son manteau opaque. Elle avait fini par recouvrir tout le village de son silence épais, absorbant la lumière et les formes autant que le moindre bruit. Au petit matin, un calme absolu régnait sur Saint-Alban. On aurait dit qu'aucun homme, ni aucun animal, n'avait jamais vécu ici. Ce fut une religieuse qui rompit le charme de cette terre inviolée. La neige s'était accumulée à hauteur de genoux, si bien que Sœur Jeanne avait toutes les peines du monde à se frayer un passage le long des interminables murs de l'imposant château qu'elle venait de fuir. Elle projetait sa lourde robe noire dans la poudreuse, de coups de hanche en moulinet de bras, provoquant à chaque pas des crissements gras qui résonnaient dans le vide ambiant. Pouvait-il la faire repérer ? Elle devait se hâter afin d'atteindre son objectif. Elle ne tiendrait plus longtemps. Elle plaça une main sur sa bouche, comme pour s'intimer de se taire, et se laissa entraîner par la pente. De l'autre main, elle frottait les murs râpeux pour s'équilibrer. Dès qu'elle eut contourné le dernier angle de la bâtisse, celui qui la dissimulerait enfin de la plupart des fenêtres du château, elle libéra le flot de bile qui lui meurtrissait les entrailles. La contraction fut aussi brutale que libératrice, et Sœur Jeanne ne put s'empêcher de contempler la matière sombre, chaude et fumante, qui pénétrait la neige comme un acide rongerait le plus tendre des calcaires. Elle reprit sa respiration, se redressa et se nettoya la bouche à l'aide d'une poignée de flocons bienfaisants. Elle prit alors conscience du froid ambiant et de sa robe détrempée, déjà rigidifiée par endroits. Le jour n'était pas encore levé, mais une étrange lueur orangée commençait à poindre de derrière les champs, de l'autre côté de l'amas d'arbustes et de broussailles. Bientôt, la neige scintillerait de mille feux, devenant aussi aveuglante que de minuscules pierres précieuses et hypnotiques. Sœur Jeanne aurait déjà dû faire demi-tour. Le temps lui était compté. Pourtant, elle s'attardait. Quelque chose lui semblait anormal dans ce tableau. Difficile de savoir quoi, alors que les reliefs se trouvaient gommés par la poudreuse. Pour venir ici chaque matin depuis quelques semaines déjà, elle connaissait par cœur le moindre élément de cet austère décor. Elle plissa les yeux pour mieux regarder. Alors elle sut. Là, à quelques mètres d'elle, cette forme oblongue qui ressemblait à un énorme haricot. Si une souche de cette taille avait dû être recouverte par la neige, nul doute que Sœur Jeanne l'aurait remarqué les jours précédents. Ici, en principe, le sol était plat, aussi lisse qu'un crâne de bébé. Elle voulut en avoir le cœur net et se trémoussa jusqu'à l'étrange monticule, ignorant le froid qui paralysait désormais son corps par-dessus sa lourde robe. Puis elle se pencha pour dégager le haut de la forme, s'attendant à trouver sous ses doigts un fagot de foin projeté là par le vent. Mais lorsqu'elle comprit ce qu'elle avait sous les yeux, elle ne put retenir un nouveau jet nauséabond.
« Seigneur, c'est Monsieur Anatole !»
s'écrièrent en chœur les sœurs alignées derrière le directeur de l'asile, tel un rang de corbeaux. Accroupi près du corps, le maître des lieux avait poursuivi l'action entamée par Sœur Jeanne et suffisamment balayé la poudre glacée sur le visage de l'inconnu pour qu'il n'en soit plus un. Avec précaution, il avait ensuite libéré le cou, les épaules, les cheveux, comme pour gagner du temps avant de savoir quoi dire. Anatole Bousquet gisait sur le flanc, recroquevillé en position fétale, les yeux clos, ses mains jointes glissées sous sa tête. On aurait dit qu'il s'était simplement allongé là, sur le côté, pour sa dernière nuit confondant la neige avec un édredon. Vêtu du manteau de laine noire qu'il ne quittait jamais, de son pantalon de toile épaisse et de ses bottes en cuir que tout le monde lui enviait, il avait les mêmes traits doux que de son vivant. Son bonnet blanc tricoté, d'où s'échappaient quelques cheveux clairs, était encore enfoncé sur son crâne. Le directeur Barrault déplia toute sa maigreur d'insecte, provoquant un léger recul collectif derrière lui et de nombreux signes de croix. Il leva la tête, considérant au-dessus d'eux à quelques pas à peine les murs de l'imposant château dressé vers le ciel sur le côté ouest. C'était là sa façade la plus inaccessible, la plus haute et la plus uniforme, la moins ouvragée, quasiment aveugle. Une vraie falaise. Anatole aurait-il pu tomber du toit ? Mais le corps avait l'air en bon état et sa position ne trahissait aucune brutalité. Le directeur tourna la tête de l'autre côté, vers les arbres, où les sapins en contrebas se mêlaient aux branchages nus dans un brouhaha dense et silencieux. Il n'y avait aucune trace de pas sur la couverture glacée, dans aucune direction, sinon celle empruntée par Sœur Jeanne le long de la muraille et par eux-mêmes à sa suite. De toute évidence, à en juger par l'épaisseur de neige qui le recouvrait, le cadavre était là depuis un bon moment. C'était une chance qu'il n'ait pas encore été attaqué par les animaux sauvages. Son regard revint sur le pauvre Anatole, endormi pour toujours. Le père du jeune homme, déjà fort diminué, allait être anéanti par la mort de son fils aîné. Pourtant, il ne fallait pas perdre une minute pour prévenir la famille. Leur lieu de résidence était à plusieurs heures de cheval, et il était déjà 8 heures en ce matin du début du mois de mars. Le directeur Barrault était le genre d'homme que les situations de crise galvanisaient. Elle lui donnait l'occasion de démontrer toute l'étendue de ses talents d'organisateur. Il mit ainsi aisément de côté ce qui aurait pu être de l'empathie sincère pour son jeune adjoint et lança des ordres tous azimuts, à l'instar des rayons de lumière qui émergeaient maintenant clairement depuis l'autre côté de l'édifice. Tout d'abord, il enjoignit aux sœurs de reprendre leur travail de surveillance et de soins auprès des aliénés. Puis il ordonna aux deux gardiens de transporter le corps jusqu'à l'ancienne étable, au fond de la cour intérieure. C'était là le lieu le plus froid dont il disposait et le mieux à même de conserver la dépouille en l'état, à l'abri des charognards. Il le déposerait en hauteur, sur une table de fortune constituée de tréteaux et de larges planches. Enfin, il chargea Marianne, l'infirmière en chef, de descendre à Saint-Alban et d'y trouver un messager susceptible de partir sur le champ, prévenir les Bousquet, à Langogne, en leur apportant le courrier qu'il allait dûment rédiger et qui devrait leur permettre de prendre leurs propres dispositions. Le messager avisé par Marianne s'élança immédiatement. Il avait choisi la route de Sainte-Eulalie. C'était un peu plus long que de passer par Saint-Denis en Margeride, mais c'était aussi le chemin le moins exposé aux bourrasques glaciales et aux congères géantes qui transformaient sournoisement les paysages en effaçant les routes. Sauf difficulté particulière, il arriverait avant la tombée du jour, en fin d'après-midi. En attendant, il ne fallut pas plus d'une heure pour que la nouvelle se répande, dévalant les pentes du château jusqu'au centre-ville, irriguant les minuscules ruelles, tournoyant autour des fontaines et pénétrant partout par les fenêtres, les cheminées et les écuries. Les gens ne s'étonnaient pas que l'étrange asile, où peu d'entre eux avaient eu le loisir de pénétrer, ait pu être le témoin d'une telle histoire. N'y entendait-on pas les fous hurler, à toute heure du jour ou de la nuit ? Leurs complaintes avaient même fini par être associées aux aléas de la météo, sans que l'on sache bien lesquels provoquaient les autres. Ainsi, il n'était pas encore midi, lorsque l'on se précipita à l'hôtel de ville pour raconter par le menu à Monsieur le maire le drame qui s'était joué la nuit précédente aux abords du mystérieux asile. Le jeune officier de santé, arrivé de Langogne 2 à 3 ans plus tôt, s'était manifestement perdu dans la tempête, de retour d'une de ses pérégrinations nocturnes. Il avait dû finir par s'endormir à quelques encablures de l'entrée qu'il cherchait. Par ici, nul n'ignorait que le froid violent provoquait ce type d'alanguissement, entraînant paralysie, hallucination, puis renoncement, sans même que l'on s'en rende compte. Pétavin, le maire, se sentit d'abord vexé que Barrault n'ait même pas pris le temps de le prévenir en personne. Ça ne le surprit pas. Les relations entre les deux hommes étaient distantes, voire tendues. Malgré ses quelques 2000 âmes et un grand nombre de hameaux rattachés, Saint-Alban était un peu trop étroit pour abriter deux égaux comme les leurs. Pourtant, Pétavin décida qu'il ne pouvait raisonnablement pas demeurer à l'écart de l'événement. Il en faisait une affaire de principe. Il envisagea un moment de saisir le procureur, ou même d'envoyer les gendarmes du canton à l'asile, histoire de mettre quelques bâtons dans les roues du directeur.